BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invitée ce soir, c'est une ancienne ministre, Marlène Schiappa. Elle publie nos 6 petites ambitions. Est-ce que ça... Bonsoir Marlène Schiappa.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Est-ce que ça s'adresse à Michel Barnier, à Emmanuel Macron, nos 6 petites ambitions, non?
Alors ça s'adresse plutôt aux femmes, oui. Parce que souvent les femmes minimisent leurs ambitions et elles utilisent beaucoup le terme « petit » pour se décrire en disant « j'ai une petite carrière, j'ai une petite entreprise, une petite équipe, un petit projet ». Et ce livre appelle à avoir de grandes ambitions pour les femmes.
Voilà, c'est un livre aussi qui est assez décoiffant. Vous ne mâchez pas vos mots, ça se cache, ça vous ressemble, c'est un peu votre personnalité. Marlène Schiappa, évidemment, a parlé un petit peu de politique. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé déjà ce matin, entre hier soir et ce matin, le duel en télévision médiatique, télévisé, entre Didier Migaud et le Premier ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou encore ce matin, Antoine Armand, le nouveau ministre de l'Économie et des Finances, qui a parlé de l'arc républicain qui n'allait pas jusqu'au Rassemblement National et qui a été tout de suite recadré par Michel Barnier. Est-ce que vous dites que les ennuis commencent ?
Non, ce que je dirais, c'est que c'est déjà très difficile, je le sais d'expérience, j'étais ministre
pendant
très longtemps.
C'est pour ça que je pose la question, oui.
C'est déjà très difficile d'appliquer au quotidien la solidarité gouvernementale, comme on dit quand vous êtes du même parti politique ou de la même coalition. Là, en fait, on a mis ensemble des gens qui ont des trajectoires différentes, qui se sont affrontés à des élections. Et comme la déclaration de politique générale n'a pas encore été faite par le Premier ministre, pour l'instant, on ne sait pas bien ce qui unit toutes ces personnalités autour de ce gouvernement.
Elles sont de droite, centre-droit. Voilà, c'est ça, il y a quand même un corpus idéologique quand même.
Ah, vous avez Didier Migaud, il est divers gauche, oui, il était socialiste
l'exception.
Dans un passé récent. Vous avez des gens qui viennent aussi de La République En Marche ou Renaissance En Marche de l'époque.
Ou Ensemble pour la République maintenant, ça a déjà changé trois
voilà,
fois.
Voilà, exactement, ouais. Plusieurs fois. Mm-hmm. Des gens comme Astrid Panosyan qui avait émis de fortes réserves sur la loi immigration par exemple, qui est aujourd'hui ministre du Travail, qui est quelqu'un de très engagé. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des lignes qui ne sont pas forcément identiques entre les différents ministre. Donc il y a une secrétaire d'État qui est chargée de la coordination gouvernementale.
Oui, Marie-Claire Carrère-Gilles, elle va avoir un job. Je ne sais pas où elle était aujourd'hui, mais
on lui souhaite de grandes ambitions.
Oui, on lui souhaite de grandes ambitions à elle. Est-ce que pour vous, l'arc républicain, il s'arrête où? Est-ce qu'il va jusqu'au bout? Est-ce qu'il s'arrête avant le Rassemblement national?
Alors, moi, je n'ai jamais utilisé l'expression arc républicain. Je déteste cette expression et je considère que ce n'est pas en ostracisant les électeurs du Rassemblement national qu'on arrive à leur parler. D'ailleurs, je me suis beaucoup exprimée là-dessus en disant qu'il fallait parler à tout le monde, dans tous les médias, à tous les citoyens. Moi, je suis allée autant à la Convention Valeurs Actuelles qu'aux universités d'été de la France Insoumise pour parler, débattre, etc. Après, il y a une différence entre considérer que tel ou tel parti ne serait pas dans l'arc républicain et considérer qu'il faut un petit peu faire valider par Marine Le Pen les propos qui sont tenus par les membres du gouvernement. Oui. C'est cette ligne de crête qui va être très difficile, je pense, pour les ministres.
Oui. Et puis surtout pour le premier d'entre eux, Michel Barnier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a... Vous lui donnez combien de temps à ce gouvernement? Quelle est la durée de vie de ce gouvernement?
En fait, la durée de vie de ce gouvernement, pour moi, elle va dépendre de ce qu'on lui demande, de ce qui est sa feuille de route. J'en reviens au fond de l'histoire, mais c'est ça qui est important. Si on lui dit, vous êtes un gouvernement plutôt technique, comme on dit, on vous demande de gérer les affaires courantes, de ne pas porter de grandes réformes, etc., ça peut arranger tout le monde que le pays soit gouverné bon an mal an. Mais si on lui dit, voilà, chacun d'entre vous doit porter des réformes, on a vu Bruno Retailleau parler de la question de l'AME, de l'aide médicale d'État, par exemple.
On va en dire un mot,
Des ministres pour lesquels ça va être une ligne rouge. Ouais. Donc, on a besoin vraiment de clarifier très rapidement, ce sera le 1er octobre, avec la DPG de Michel Barnier, le cap, en fait, où vont tous ces gens ensemble et où est-ce qu'ils emmènent le pays.
Vous auriez pu participer à ce gouvernement? Alors, on ne vous l'a pas proposé, mais est-ce que vous auriez pu? Est-ce que vous auriez accepté?
Non, mais il y a plein de gens qui ont été sondés. Après, moi, à titre personnel, je suis mieux à l'extérieur de ce gouvernement. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient le raisonnement de se dire je vais rentrer dans le gouvernement pour essayer de peser sur les arbitrages et d'essayer de l'intérieur d'agir en fonction de mes valeurs. Je le comprends tout à fait.
Ouais. Est-ce que vous considérez que le Premier ministre a eu raison de recadrer Antoine Armand?
Alors moi j'ai une théorie globale mais qui est valable pour les premiers ministres comme pour les dirigeants de façon générale. Je pense qu'il ne faut jamais tirer sur sa propre équipe.
Ouais.
Mais ça n'engage
vous
pas.
Vous en avez été victime parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche.
Moi le président de la République ne m'a jamais tiré dessus, si vous me pardonnez l'expression, mais je n'ai jamais eu à faire face à ça. Et j'ai plutôt été soutenue par mes premiers ministres, que ce soit Édouard Philippe, Jean Castex essentiellement. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée quand on affaiblit son équipe, on s'affaiblit soi-même. C'est mon point de vue en tout cas.
Oui, et c'est un point de vue qu'on retrouvera dans votre livre. Encore une question politique. Vous qui connaissez très bien Emmanuel Macron, il vous a fait confiance, il vous a soutenu, vous êtes un peu un bébé Macron. Comment vous expliquez qu'il était échoué à ce point-là, j'ai envie de dire, il y a 25% des Français qui le soutiennent, puis on voit bien ce divorce avec les Français, alors que quand même, il avait quand même des bonnes idées, enfin surtout ici sur BFM Business, pour les entreprises, il a quand même fait pas mal de choses,
oui.
Mais pas que.
Bah bien sûr, et d'ailleurs, si vous me le permettez, pas que des bonnes idées, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre pour les entreprises notamment, comme ministre de l'économie et ensuite comme président de la République. On parle plus de la question du chômage, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en lice vers
Absolument.
L'objectif du plein emploi, c'est quand même un sujet. Le pays n'est pas le même si vous avez des gens qui peuvent travailler et gagner leur vie ou si vous avez un taux de chômage élevé. Et ça, c'est à Emmanuel Macron qu'on le doit,
la question
qu'on soit
du pouvoir
d'accord
d'achat
ou pas
qui reste
avec
fort.
Lui. Ouais. Bien
Mais
sûr.
Comment est-ce que vous... Justement, vous analysez ensuite, vous pourrez faire un livre sur Emmanuel Macron. Là, vous analysez très bien le problème des femmes, si on peut dire ça comme ça. Notamment, pourquoi les femmes, on ne les voit pas plus à la tête d'entreprise.
Absolument.
Mais Emmanuel Macron, pourquoi ça a échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ce divorce?
Moi, d'abord, je ne dirais pas que ça a échoué. On paye les musiciens à la fin du bal, comme on dit au village. Donc, on verra ce qu'il en est. Effectivement, il y a des tempêtes. C'est un président qui n'a pas été épargné. Il a vécu le Covid, les gilets jaunes. Il y a un certain nombre de sujets. Je pense que retisser le lien avec les Françaises et les Français est absolument primordial. Il va falloir que le président de la République parle aux Français autrement qu'à travers ce gouvernement. Sinon, on a l'impression que Michel Barnier parle en son nom. Donc, cette question de positionnement, là, c'est plus la communicante qui parle, mais cette question de positionnement des uns et des autres, de la place de chacun, elle est très importante. Le président a par exemple dit au gouvernement, au Conseil des ministres, je vous aiderai à réussir. Le choix des mots est important parce qu'il n'a pas dit je vais réussir avec vous, nous allons réussir ensemble. Il a dit je vous aiderai. Ça veut dire vous, c'est vous, moi, c'est moi, et je veux bien vous aider.
Nouveau, ça,
mais
ouais.
Chacun à sa place, voilà,
ouais,
pour citer les grands auteurs.
Mais c'est un problème de gouvernance pour vous. C'est quelqu'un qui s'est un peu trop enfermé dans sa tour d'ivoire avec Alexis Keller et qui a pensé qu'on pouvait diriger la France à deux.
Non, mais moi je veux pas, c'est facile, je sais, de blâmer
non,
Alexis Keller.
Non, mais justement,
le pauvre,
non,
alors qu'il travaille jour et nuit,
il a fait des choses, je veux dire.
À cristalliser tout ce dont
bah,
ça ne va pas dans le pays.
Comme tout remonter, y compris la moindre nomination, remonter à eux. Et à surtout Alexis Keller.
Oui, c'est vrai, mais il y a un sujet de positionnement de chacun, comme je disais. Ouais. Donc on verra comment Matignon arrive à prendre de l'espace et comment les ministres avancent. Il y a beaucoup de ministres qui ont été nommés qui sont discrets. Il y en a d'autres qui sont des personnalités plutôt fortes.
Il n'y en a pas d'aussi fortes que vous.
Bon, je suis plutôt créditée à une forte personnalité. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut.
Venant de moi, c'est plutôt une qualité,
c'est plutôt
forcément.
Une qualité, très bien. Non, mais vous avez aussi des ministres comme Guillaume Kasbarian, comme Maud Bréjon, qui sont des gens, Marc Ferracci, qui ont une personnalité, une compétence aussi
qui sera
dans
là
leur
demain.
Sujet.
Mmh.
Absolument. Mais écoutez, on le salue, on regardera demain. Donc, on verra ce que ces ministres-là ont apporté.
C'est un remaniement, vous pensez, ou c'est un nouveau gouvernement ?
C'est un
Il y a beaucoup de macronistes, hein, vous êtes d'accord ?
Bah pas tant que
vous
ça
venez
en
les
fait.
Citer.
Bah,
c'est
ouais, mais si vous regardez
Armand, Laurent Saint-Martin, la ministre du Travail, la ministre de l'Éducation nationale, je peux continuer encore ma liste en
Alors
disant...
vous avez pas mal de députés en fait,
oui.
En réalité c'est vrai, et moi ce que j'observe, c'est que c'est un gouvernement à mon goût personnel. Je pense que ce qui manque dans ce gouvernement, c'est un peu des activistes. C'est-à-dire traditionnellement dans les gouvernements, vous avez toujours des gens qui viennent de la société civile.
Il manque des activistes,
mais qui sont pas des techniciens. Là, vous avez aucun représentant du monde associatif. Vous n'avez pas de président d'une grande association, vous n'avez pas d'activiste, vous n'avez pas quelqu'un qui s'est fait connaître pour son engagement, son attachement à une cause. Les gens qui viennent de la société civile sont plutôt techniques, donc ça donne déjà une coloration à ce gouvernement.
Oui, c'est vrai que c'est un gouvernement en fait où il n'y a pas de très très forte personnalité, il n'y a pas d'activiste et il n'y a personne de la société civile, alors qu'on pensait que ce serait peut-être une voie de secours pour Michel Barnier. Je ne sais pas, on parlait du président de Jean-Dominique Sénard, du président de Renault, mais de d'autres personnalités venant justement du monde de l'entreprise ou des associations ou du monde syndical.
Exactement, vous avez deux personnalités de la société civile. Didier Migaud, mais bon, il est société civile parce qu'il était élu avant.
Oui.
Laurent Saint-Martin, qu'on apprécie
France,
beaucoup,
Bercy,
mais il a été parlementaire. Voilà, il est élu, il n'est pas tout à fait. C'est un faux société.
C'est un faux société civile, pas compliment dans ma bouche.
Oui. Et vous avez Clara Chapaz, qui était directrice générale de la French Tech, qui, elle, n'est pas politique, qui hérite d'un secrétariat d'État à l'intelligence artificielle et au numérique.
Oui.
C'est tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de représentant non plus du monde de l'entreprise, pas de grand patron.
Il y a un phénomène que vous décrivez dans votre livre. Je vais en parler tout à l'heure parce que ça m'a interloqué. C'est ce que vous appelez le phénomène des boys club.
Oui, absolument.
Le boys club, en fait, vous dites, ben, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont du mal à réussir, parce que, ben, par exemple, vous l'avez senti, ils adorent tous le foot, donc ils se retrouvaient tous en train de jouer au foot dans les vestiaires, et d'en parler dans les vestiaires, etc.
Ah, histoire vraie.
Oui, histoire vraie, boys club.
Racontez-la mieux que moi. D'abord, qu'est-ce qu'un boys club? Et je sais, il y a beaucoup de dirigeants qui vous regardent, Edwige, et donc je les invite à inviter des femmes dans leur boys club.
Oui, parce dans le vestiaire, c'est compliqué, quoi.
Exactement. Ouais. Alors, un boys club, en gros, c'est un réseau un peu informel avec des hommes qui ont du pouvoir et qui se retrouvent entre eux. Par exemple, au gouvernement, il y avait le foot du mardi soir à Bercy. Et j'ai fait la remarque en disant, mais en fait, vous jouez entre hommes du gouvernement, donc nous, les femmes, nous en sommes exclus. Ça veut dire que vous avez un temps privilégié, un temps informel autour du Premier ministre. Et autour de ce temps informel, vous pouvez nouer des alliances, partager vos projets, etc.
Après les réseaux.
Bien sûr, donc tous les clubs de cigares, les soirées golf ou les sorties qui sont un petit peu connotées, dans lesquelles on n'invite pas les femmes, ça tourne vite au boys club. Et ça peut être simplement de dire, on va prendre un after work de 19h à 21h au bar en face du bureau, et pendant ce temps, on n'invite pas les femmes à ce verre, et donc elles sont exclues de fait de ce réseau informel. Et on sait très bien que beaucoup de promotions, beaucoup de décisions se prennent aussi en informel.
Ouais, et ça existe beaucoup dans les entreprises aussi.
Bien sûr.
Il n'y a pas qu'en politique.
Prioritairement, je dirais, dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans les choix d'activités, par exemple, dans les séminaires d'entreprises. Moi, j'accompagne beaucoup de dirigeantes aujourd'hui chez Tilder, l'agence dont je suis associée. On a beaucoup de dirigeantes qui nous disent qu'elles se sentent un peu exclues des activités de séminaire quand vous avez dégustation de whisky ou de cigares ou rugby, des activités qui sont connotées et pour lesquelles les dirigeants se reconnaissent et excluent de fait les femmes.
Alors dans votre livre, Nos 6 petites ambitions, et c'est pour une révolution de la réussite des femmes, et c'est publié aux éditions de l'Aube, excellente édition, maison d'édition, vous dites, en fait, il y a deux choses. D'abord que les femmes, elles sont toujours, effectivement, j'ai un petit diplôme, ou j'ai pas de diplôme, ou j'ai un diplôme, bon, j'ai fait, j'ai fait HEC comme tout le monde, j'ai fait l'ENA comme tout le monde. Enfin, elles sont toujours en train de rabaisser.
Absolument.
Et elles sont toujours dans l'autocensure. Expliquez-nous pourquoi vous dites ça.
Mais ça m'a choqué, en fait, une dirigeante qui est une grande dirigeante, très brillante par ailleurs, et qui m'a dit, non, mon parcours n'a rien d'intéressant, j'ai fait HEC comme tout le monde. Et je l'ai reprise en disant, mais non, tout le monde n'a pas fait HEC. Et il me semble pas qu'un homme parle de lui comme ça. Moi, j'ai observé, ça fait 20 ans que je travaille dans les questions d'égalité femmes-hommes, j'ai observé quand un homme se présente, il le fait très souvent, il y a des exceptions, mais souvent avec assertivité, affirmation, et les femmes se minimisent elles-mêmes, se dénigrent, vont dire « mes études, j'ai rien fait spécial, je suis plutôt bonne élève, j'ai eu des résultats, bon, pas incroyables, mais quand même des bons résultats, j'ai une petite équipe ». Moi, j'essaye de dire dans ce livre, arrêtez de vous dénigrer vous-même, parlez de vous avec fierté, et vous allez voir qu'on ne dira pas que vous êtes arrogante, vantez vos propres résultats, personne ne le fera pour vous. Et ça s'appelle le syndrome de Cendrillon, ou syndrome de la bonne élève, on fait très bien le ménage, en gros, on fait très bien ses tâches, et on attend que quelqu'un vienne nous dire bravo, félicitations, viens dans mon château. Mais non, personne ne va revendiquer pour vous vos réussites.
Et puis il y a le syndrome de la schtroumpfette.
Oui, absolument.
Les schtroumpfs, on connaît bien.
Mais oui, la schtroumpfette.
Mais il n'y a qu'une schtroumpf.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a plein de schtroumpfs. Vous avez schtroumpf prof, schtroumpf grognon, schtroumpf grand schtroumpf, et il y a une seule schtroumpfette. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est elle qui représente toute seule toutes les femmes. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les équipes quand on vous dit par exemple, non mais moi dans mon équipe, vous inquiétez pas, j'ai déjà une femme.
Des femmes.
N'est-ce pas Fabienne, vous êtes une femme, etc. Ouais. Et on va dire, vous avez une seule femme.
J'ai encore vécu ça il y a très peu de temps.
Je ne suis pas étonnée. Donc en fait, il faut arrêter de penser qu'une femme toute seule représente 52% de l'humanité. Les femmes sont tout aussi plurielles que le sont les hommes.
Oui et non. Enfin, pluriel, oui, dans le sens où elles sont 52% de l'humanité, donc à la limite, c'est vrai plutôt l'inverse. Bon, plus sérieusement. Non, c'est que souvent, les femmes, il n'y a pas de solidarité féminine. Enfin, c'est assez rare.
Mais c'est vrai.
Comment vous expliquez ça?
Justement, grâce à ce syndrome, par ce syndrome de la schtroumpfette qu'on appelle aussi reine des abeilles, c'est-à-dire qu'on va pas se mentir, c'est assez valorisant d'être la seule femme.
Ouais.
On n'est pas, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est intrinsèquement pleine de sororité, de bons sentiments et qu'on n'a pas de stratégie de carrière. Donc il y a aussi des femmes qui se disent, en fait, c'est un peu ma valeur ajoutée quelque part d'être une femme. Pourquoi j'aiderais les autres? Et des femmes aussi qui se disent, moi j'ai réussi à une époque où il n'y avait pas de quotas, j'ai réussi malgré le sexisme, les embûches, pourquoi est-ce que je faciliterais le chemin aux autres? Donc moi j'essaye de me battre pour ça et de dire qu'on peut faire des actions de solidarité les unes avec les autres, comme les hommes savent très bien le faire entre eux, même quand ils sont en désaccord.
Alors vous faites un constat encourageant, on le voit bien, il y a des femmes, il y a toujours les trois femmes du CAC 40 dont on parle tout le temps, que ce soit Estelle Brachialoff, Christelle Edman,
Veolia,
ou encore Catherine McGregor. c'est des entreprises où l'État joue, sauf pour Veolia en l'occurrence. Mais les autres, que ce soit pour Engie ou encore Orange, on voit bien que c'est l'État qui a poussé pour ça. Bon, ça bouge un peu. En même temps, vous travaillez sur le Next 40, mais Next 40 peut être aussi le Next SBF, enfin, je veux dire, au sens large du terme. Vous leur dites quoi aux jeunes générations derrière vous?
Exactement. Il y a trois femmes aujourd'hui. Il y a 18 ans, elles étaient deux. Donc, ça veut dire qu'on va progresser quand même très lentement. Donc, moi, j'ai monté une ONG que je préside qui s'appelle Active. Mmh. Et avec Active, j'ai créé le Next Woman 40. Pour dire, quand on nous dit il n'y a pas de femmes patronnes du CAC 40 parce qu'on n'en a pas trouvé, je leur dis, vous mentez. Si vous cherchez des femmes à nommer à des postes de dirigeantes, vous en trouverez. Donc, comme nous, on en connaît plein et j'en ai plein autour de moi, j'ai envie justement de faire preuve de sororité, de les mettre en avant. Et donc, nous sommes en train de lancer le Next Woman 40, avec une liste qui va être établie par un jury de toutes les femmes dirigeantes en France qui peuvent devenir patronnes du CAC 40 demain.
Et vous allez distribuer ça à toutes les entreprises en leur disant, tiens, le premier qui dit ça, hop, je lui envoie ma liste.
Absolument. D'abord, on est placé sous le haut patronage du président de la République. Donc, on espère que pour les nominations qui dépendent de l'État ou dans lesquelles l'État est engagé, il y aura un progrès de féminisation, d'une part. Et d'autre part, oui, pour les fonds d'investissement, les actionnaires, les présidents, on va faire connaître ces femmes, les soutenir, les aider, y compris vis-à-vis des médias, parce que parfois, elles rechignent à être visibles pour qu'elles puissent être nommées bientôt.
L'autre jour, vous savez, il y avait le grand show de... C'était mercredi dernier, le grand show de Xavier Niel. Comment devenir milliardaire. Donc, je dois reconnaître que j'y étais. Je trouvais ça quand même assez amusant comme spectacle et intéressant. Et il disait, mais moi, j'ai quand même un problème. C'est que je regarde devant moi, il y a des 2000 à tous, des groupies, quasiment que des hommes.
Bah oui, mais 80% des tâches éducatives et ménagères sont accomplies par les femmes. Les femmes, entre 18h et 21h, elles ne sont pas en train d'écouter Xavier Niel. Non. Elles sont en train d'accomplir ces tâches. Ou alors de finir...
Oui, mais ça veut dire, dans la French Tech... Il y a un vrai problème, c'est qu'il dit, mais moi, j'embauche tout de suite une femme. On n'a pas de femme dans la French Tech.
Et bah, la preuve, la dirigeante, la DG de la French Tech, qui vient d'être nommée secrétaire d'État. Vous avez Caroline Winter, qui est la dirigeante de la French Tech New York, qui est entre New York et Paris. Vous avez plein de femmes start-upeuses, la créatrice de Liv, une start-up sur l'endométriose.
C'est compliqué quand vous n'êtes pas une femme de lever des fonds, vous le savez bien.
Et bah, alors d'abord,
5%, je
crois. Complètement, le collectif Sista a démontré ça très bien. Effectivement, les femmes sont moins financées. Et je dirais que les sujets portés par les femmes... moins d'attention. Je parlais de Liv, une start-up sur l'endométriose. Bah, elle a moins d'intérêt
Les hommes sont
vis-à-vis d'elle.
Moins concernés.
Exactement.
Et ils le sont indirectement.
Ils le sont indirectement, mais ils ne vivent pas ça dans leur chair. Et quand vous avez des start-up sur les questions du care, sur la beauty tech, etc., bah, vous avez une discrimination, non pas des porteuses de projets, mais aussi des sujets qu'elles portent.
Oui, ça c'est clair. En tous les cas, petit livre, mais assez décapant. Nos 6 petites ambitions pour une révolution de la réussite des femmes. Donc aux éditions de l'Aube, je le disais. Merci beaucoup.